Les Amours d'Anaïs, premier film de Charline Bourgeois-Taquet présenté à la Semaine de la Critique. Charline, bonjour. Alors, c'est votre premier long métrage. On a pu apprécier déjà Pauline Asservie. Le film est un peu dans la continuité, évidemment, avec son actrice principale Anaïs de Moustier et cette collaboration avec Nicolas Piovani, qui n'était pas présent sur ce court métrage. À quel moment, justement, l'idée déjà d'une musique originale pour le film s'est présentée et comment s'est déroulée la rencontre ?
Bonjour. En fait, moi, je ne comptais pas du tout utiliser de musique originale. Je pense que ça m'intimidait un peu. Et donc, pendant tout le montage, j'utilisais des musiques additionnelles. Il n'y en avait pas énormément, parce que c'est un film qui est très dialogué, donc il n'y a pas non plus beaucoup de place pour la musique. Et puis, à la fin du montage, je me suis rendu compte qu'il manquait quand même une unité. Et j'ai eu envie d'essayer la musique originale. Et il se trouve que... moi, j'aime beaucoup les musiques de films d'avant, en fait. C'est un peu bête de dire ça, mais des années 60, 70. J'aime beaucoup les mélodies. Et le seul compositeur vivant qui m'intéressait, je le savais, c'était Nicolas Piovani. Mais évidemment, je n'osais pas imaginer lui proposer ou lui demander de faire la musique de mon film. Je sais que c'est quand même une star. Donc j'en avais parlé à mon producteur qui m'a dit « Ah oui, Charline, là, tu vises quand même un petit peu haut. » Et finalement, comme on n'avait pas d'autre idée et que j'y tenais, quoi, ça revenait sans arrêt. Je disais « Bah moi, c'est Nicolas Piovani. Il sait travailler des thèmes comme ça, un peu à l'ancienne, quoi, parce que... vraiment, la mélodie, c'est très important pour moi. Donc, on lui a proposé... je ne sais plus comment on est arrivé jusqu'à lui, mais on lui a montré le film qui était terminé et il a accepté.
Et quel film, avec sa musique, vous pensiez particulièrement ?
Dans les films récents, j'avais adoré la musique qu'il a faite pour Le Traître de Marco Bellocchio et puis d'autres musiques qu'il avait faites pour les films de Bellocchio et aussi tous les films de Nanni Moretti. Et notamment, je me souviens que quand j'étais petite, la musique de La vie est belle m'avait énormément marquée, donc ça c'est Benigni. Donc des films italiens en fait.
Et Le Traître qu'on avait particulièrement défendu à Cinésique. Nicolas Piovani est très réputé pour ses mélodies. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que non seulement on retrouve sa sensibilité, mais on n'est pas non plus dans la facilité mélodique habituelle chez lui. Il y a quelque chose de beaucoup plus diffus, de moins évident.
Oui, c'est vrai, mais parce que en fait, il m'a proposé beaucoup de choses et j'ai pas tout gardé. Enfin, évidemment, je suis allée deux fois à Rome, on en a parlé ensemble, j'ai pas fait ça toute seule dans mon coin. Mais parfois, il compose un morceau très étoffé et puis moi, je demandais à garder qu'un instrument. C'est vrai qu'il y a des touches parfois comme ça dans le film qui créent une atmosphère mais quand même grâce à quelque chose d'un peu mélodieux ou mélodique, mais qui n'est pas le morceau entier. Ça, j'aime bien que ce soit possible aussi. Le morceau entier, je le garde pour les moments vraiment les plus importants du film.
Et est-ce que vous avez une facilité de vous exprimer sur la musique, parce que c'est toujours un langage commun finalement à trouver entre un musicien et une réalisatrice ?
Aucune facilité parce que j'y connais absolument rien en musique et vous voyez, j'ai même pas le vocabulaire d'ailleurs pour m'exprimer j'ai déjà eu la chance en termes de communication que Nicolas Piovani parle français, ça a largement facilité les choses, mais je crois qu'il a vite compris ce que je cherchais. Quand il m'a parlé la première fois du film, j'ai vu aussi qu'il avait compris ce que j'avais fait, qu'il en parlait à la fois en tant que musicien et ça donnait un regard vraiment intéressant pour moi. Il parlait beaucoup du rythme du film et de l'évolution en termes de tempo, de couleur et tout ça. Puis il en parlait aussi avec son expérience d'homme qui a vécu, quoi, et qui connaît la vie. Et c'était assez passionnant ce dialogue entre nous.
Et d'après vous, quel regard Nicolas Piovani porte par sa musique sur la romance, justement, et ce personnage principal qui a une dimension burlesque ?
Alors justement, il avait composé pas mal de choses pour la première partie du côté du burlesque. Moi, ça, je l'ai enlevé parce que j'avais pas envie de souligner trop. Et justement, en plus, les morceaux qu'il avait écrits pour la première partie avaient un côté très italien. Et je trouvais que ça... Voilà, ça allait pas avec le film. En revanche, ce qui est évident, c'est que... sa musique apporte beaucoup à la deuxième partie du film, au moment où ça devient plus sentimental, on arrive plus dans ce que j'appelle moi le premier degré.
Et on est dans ce film entre la légèreté et un aspect beaucoup plus tragique, entre le rire et le larme, et je trouve que la musique justement trouve ce juste équilibre. Il est très parfois délicat dans la musique de faire basculer le film d'un côté ou de l'autre, et je trouve Nicolas Piovani parvenu justement à maintenir cet équilibre sans faire basculer le film dans un ou l'autre situation.
Bah oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est assez fascinant parce que le morceau, enfin le thème principal du film, le morceau que je préfère moi et qui arrive deux fois dans le film, si on l'écoute sans les images, ça peut tout aussi bien être un truc tragique. Ça peut évoquer des choses vraiment douloureuses et ça peut aussi évoquer quelque chose de très lyrique, et, par exemple l'amour. Et moi, je trouve ça dingue qu'il ait réussi à faire quelque chose comme ça qui d'un peu... Qui puisse se métamorphoser en fonction de ce qu'on met dessus, quoi.
Quand Nicolas Piovani est intervenu sur le film, quand vous lui avez montré les images, est-ce que Purcell et Ravel étaient déjà présents dans le montage ?
Oui, depuis toujours. Et ce qui est assez drôle, c'est que le morceau de Ravel, qui n'est pas très connu, qui a même un titre impossible, ça ne sert même à rien que je le cite, mais bon, qui est un morceau pour flûte et harpe, Piovani en fait m'a appelé en me disant: c'est pas possible, tu as mis dans ton film le morceau le plus important de toute ma vie depuis que j'ai 6 ans, c'est mon morceau fétiche, personne ne l'aime. Et donc c'était quand même dingue qu'on se retrouve là-dessus.
Et vous pensez qu'il s'est inspiré de ses musiques préexistantes pour sa propre partition?
Je sais pas, justement, c'est assez mystérieux pour moi, parce que au début, en fait, j'avais pas osé lui faire écouter le film avec les musiques. Je pense que j'avais dû lui envoyer une version entière sans rien. Et puis après, je lui ai fait écouter une deuxième fois, je lui ai montré le film une deuxième fois, avec les musiques que j'avais utilisées pour le montage et que j'aimais et que je voulais garder, dont Purcell et Ravel, et peut-être que ça lui a donné une direction.
Et il y a une dimension aussi, je trouve, dans la musique baroque, comme un film d'un siècle passé, un peu comme Ma vie de château de Rapneau, par exemple, où Anaïs de Moussier jouerait, par exemple, le personnage principal.
C'est vraiment incroyable que vous me parliez de ça, parce que je ne me souviens pas du tout de la musique du film, mais en tout cas, La vie de château est un film que j'adore, que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais que j'avais adoré, et Rapneau compte beaucoup pour moi, et notamment le Sauvage, avec Catherine Deneuve. Mais Purcell, c'est sublime, mais j'ai même hésité à l'utiliser tellement c'est sublime et tellement ce lamento de Didon, c'est un peu la tarte à la crème des musiques de deuil, donc je me disais c'est peut-être un peu too much, et en fait c'est tellement beau que je l'ai gardé.
Alors c'est vrai, vous parlez du Sauvage, moi j'ai pensé beaucoup à Catherine Deneuve en voyant Anaïs de Moustier dans cette dynamique constante. Et justement, est-ce qu'il y avait des musiques sur le plateau, par exemple, pour insuffler cette dynamique ?
Absolument pas. Non, moi j'ai besoin d'être très concentrée, de travailler le plus possible dans le calme. Alors sur un tournage c'est difficile, mais en tout cas je peux vraiment pas mettre de musique en plus. Mais tout ce travail sur l'énergie, la vitesse, le mouvement, la vivacité, c'est quelque chose qu'on avait déjà exploré ensemble sur le court-métrage, Paulina Servi. Et donc Anaïs connaissait à peu près ma manière de travailler, et on savait ensemble ce qu'on cherchait, et donc c'est surtout de la mise en scène, des indications de jeu et de déplacement dans les décors. C'est surtout comme ça qu'on est arrivé ensemble à ce résultat.
Et maintenant que vous avez travaillé donc pour la première fois avec un compositeur, Nicolas Piovani, est-ce que cette leçon que vous allez tenir vous a donné envie de prolonger avec lui ou quelqu'un d'autre, en tout cas d'une collaboration ?
Écoutez, c'est possible. En fait, ça dépendra vraiment du prochain film. Mais j'ai trouvé ça très fructueux, donc je ne l'exclus pas du tout.
Merci beaucoup, Charline Bourgeois-Taquet, pour Les Amours d'Anaïs.
Et vous pouvez retrouver notre entretien de Nicolas Piovani, le compositeur des Amours d'Anaïs, dans un autre podcast.